Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit. Ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue
à Cour d'honneur, saison 5, épisode 9.
Et la 71e émission, une nouvelle dizaine pour une nouvelle année.
Pour l'occasion, nous sommes de retour dans vos oreilles.
Avant tout, nous vous souhaitons la meilleure année possible, mais si vous restez sur nos ondes, c'est déjà mission accomplie. Toujours là pour vous divertir, au micro encore et toujours vos boss ladies préférées, Swan
et Elise.
J'espère que vous êtes prêts à nous écouter en cette nouvelle année.
Car oui, ça y est, c'est la première émission de 2026.
Que vous attendiez tous avec impatience, on n'en doute absolument pas.
Même si on doit lutter contre le froid d'hiver, la neige et la période des partiels qui nous a tous mis un sacré coup.
On est quand même à fond pour vous divertir.
Restez avec nous à écouter du bon son, comme toujours.
Et des anecdotes à faire arrêter tout le réseau de la RATP, même s'il y a déjà la neige pour ça. Allez, on se pose toujours cette même question.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
Et on vous répond toujours sur Radio Sorbonne Université.
Votre magazine préféré d'infos et de culture qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
C'est un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Pendant une heure, on va
parler de froid hivernal.
Il y a du verglas, faites attention à vous. Bah, je viens de m'enculer, je vous jure, j'ai trop mal.
On va aussi parler de meurtre.
Un serial killer, un tueur en série.
Ah, serial killer.
Et de vacances.
Mon sac est fait.
Mon sac est fait ! Mon sac est fait ! Mon sac est fait !
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes, comme toujours, pour vous servir.
Bonsoir Romain, bonne année.
Bonsoir, bonne année. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de la solitude en hiver, pour le meilleur et pour le pire.
Ouh là là. Bonsoir Elias.
Bonsoir, bonne année à toutes et à tous aussi. Moi, ce soir, j'ai enregistré un micro-trottoir sur les actions d'un certain Donald outre-Atlantique.
Donald, ça me dit rien.
Aussi fameux que toi, Elias, j'ai envie de dire, mais pas dans le bon sens du terme, lui, pour le coup. Bonsoir à Jade aussi.
Bonjour, alors nous aujourd'hui, on va se plonger dans les coulisses de la fondation de Sorbonne Université avec notre invité, Romuald Galé.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Bonne année à toutes et à tous.
Merci
beaucoup, bonsoir à vous deux. Bonsoir également à Mathilde.
Bonsoir à tous, je vous souhaite la belle année et ce soir je vais vous parler des bons plans culturels, notamment pour nos journalistes en herbe.
On a hâte d'entendre tout ça et bonne année aussi à Alice et bonsoir qui nous fait l'honneur de sa présence pour bien commencer l'année.
Salut les filles, salut l'équipe. Alors moi ce soir je vais transformer la chronique pavée en chronique criminelle pour parler d'un étudiant de la Sorbonne dans les années 80 qui s'est pris des pulsions meurtrières.
Ouh là 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 là, ça promet. Hein. Bonsoir également à Clara, bonne année.
Bonsoir, bonne année. Alors moi aussi je transforme un peu la chronique Sorbonne en personne avec un trio. Un trio qui est passé par la Sorbonne et dont les idées politiques ont reconfiguré la vie politique au Moyen-Orient depuis les années 40.
Bonsoir aussi à Lavinia.
Hello les filles, bonne année. Et ce soir je vous ai préparé une carte postale sonore sur l'atrium du campus Jussieu. Voilà, voilà.
Ben dis donc, on a hâte de toutes ces chroniques. Mais bien sûr, on n'oublie pas le grand, toujours la même blague, Thomas Beckett. Thomas Jefferson. Eh ben non, toujours pas. J'arrive à court de Thomas, c'est encore le fameux célèbre Thomas Schnell.
Bonsoir à tous, allez, je vous le dis. Je suis content de vous retrouver cette année. Très bonne année à tous.
Merci.
Ah, nous aussi.
Allez, que vous soyez en pleine période d'examen.
Perdu entre deux idées de nouvelles résolutions.
Au planqué à la BU.
On vous accueille parmi nous pour la prochaine heure. Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Quand le froid arrive, même les plus indépendants commencent à douter. Panique amoureuse ou vraie envie, c'est l'édito du jour avec Romain.
Quand vient l'hiver, les fameux mâles alpha et les boss ladies se perdent quand la bise fut venue, comme dirait La Fontaine. Dès que le froid arrive, même les personnes très fortes mentalement commencent à vouloir quelqu'un.
l'été, on est la définition même de l'indépendance. Un coup backpacker, un coup travailleur, un coup à la plageur, non. L'hiver, il faut un plaid avec un prénom. Alors certains y arrivent et d'autres se morfondent devant la saison 5 de Stranger Things en se rappelant qu'un partiel obscur et beaucoup trop important les attend demain matin à 8h30 campus Malesherbes. En fait, j'ai juste l'impression qu'on appelle ça une mode, alors que c'est tout sauf une mode. C'est comme les clowns tueurs, on appelle ça une panique saisonnière. À cette idée, il y a cette idée que si tu es seul en hiver, c'est comme si tu portais pas de porte-clés moche accroché à ton jean, tu as raté le coche. Comme si le froid devenait plus supportable à deux, comme deux SDF se réchauffant au coin d'une poubelle enflammée. L'hiver, le temps passe deux fois plus lentement, comme si t'étais dans la salle de l'esprit et du temps, sauf que t'es tout seul, et que la solitude se voit plus. Donc on fuit, on s'enferme dans des relations toxiques qui nous font rater nos partiels, et à force de vouloir monter dans le train comme tout le monde, on finit par le prendre sans connaître la destination. Alors qu'à la base, toi, tu venais juste faire des photos d'identité dans la cabine du métro. Et le pire, c'est que t'avais pas besoin de passer d'amour, t'avais pas besoin d'amour. T'avais juste besoin de passer l'hiver.
Merci Romain. Ouais.
Très émotionnel.
Comment bien commencer en nous rappelant qu'on est tous célibataires. Voilà, il est 18h06 sur Radio Campus et 20h06 sur Radio Sorbonne.
Ça y est, Swan, nous sommes à la première émission de l'année 2026.
Le temps est passé si vite quand on y pense, tellement vite que je commence à voir ma vie défiler devant mes yeux là.
D'ailleurs, l'autre jour, je t'ai pas dit, j'ai failli me faire kidnapper par des mecs en casquette rouge.
Mais non, t'es trumpiste, mais moi aussi, meuf.
Heureusement qu'on n'est pas des présidents vénézuéliens.
Ou danois.
Allez, on va leur rappeler, hein.
Que dans la vie,
il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant, place
au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
Une semaine après l'opération des forces américaines pour capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro, une capture d'ailleurs saluée par Emmanuel Macron au nom de la fin d'une dictature, le 47e président des États-Unis jette désormais son dévolu sur le Groenland. L'idée d'acheter le territoire danois n'est plus une simple provocation. Washington n'exclut désormais plus le recours aux armes.
Effectivement, Swan, entre soif de pétrole et pulsion de conquête, cette diplomatie du fait accompli fragilise l'équilibre mondial. Alors, quelle doit être la voix de la France ? Faut-il laisser le droit international se fracasser sur les ambitions de Trump ? Mi-décembre, selon Libération, seuls 37% des Américains soutenaient encore la ligne du milliardaire. Mais qu'en pensent les étudiants ?
Ouais, non, je pense pas qu'il faut laisser Trump faire ça. On voit où ça a mené l'ingérence des États-Unis au Proche-Orient, par exemple. Donc je pense que non, ça va pas aider les Vénézuéliens à aller mieux depuis qu'ils kidnappaient leur président.
Déjà, il n'y a aucun rapport avec la sécurité. Qu'a décidé Donald Trump et les États-Unis de manière plus générale, c'est un coup d'État, c'est une agression impérialiste parce qu'ils ont des intérêts économiques au Venezuela. Et ça, ça se fait contre un État et contre un peuple qui est souverain, malgré certaines controverses au niveau des dernières élections, mais ce n'est pas le sujet ici. Ce qu'on remarque, c'est surtout que les États-Unis n'ont aucun problème à bafouer le droit international et la souveraineté des peuples lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. On se doit de condamner sans réserve ce qui s'est passé pour des raisons anti-impérialistes.
Il faut au moins condamner ce que Trump y fait en attaquant le Venezuela comme ça. Je ne sais pas s'il y a des solutions plus concrètes que la France aurait pu apporter, mais le fait d'approuver ça, ça envoie jamais un bon message pour les autres pays.
Ce qui s'est passé récemment en Amérique du Sud, c'était pas pour la sécurité du pays, c'était pas pour la sécurité du peuple, c'était pas pour le bien du peuple, c'était pour les intérêts économiques des grosses entreprises américaines. Je trouve que c'est dégueulasse de, en plus, essayer de cacher ça et de mettre ça sous le coup des intérêts du peuple, alors que c'est pas le cas. On devrait, au fur et à mesure, prendre notre indépendance vis-à-vis des États-Unis et pour leur faire comprendre qu'on n'a plus besoin d'eux, qu'on n'en a rien à foutre d'eux et qu'on peut éventuellement riposter si un jour ils décident de s'attaquer à nous ou autre.
Pour moi, je peux comprendre dans l'idée, dans une façon très cynique de voir les choses, que Macron se soit dit que pour pas se mettre Trump à dos, il allait comme ça faire un tweet où il parle pas de Trump, absolument pas de la souveraineté des Vénézuéliens et juste du fait que Maduro était un dictateur. Et en fait, au final, quelques jours après, il s'est fait marcher dessus par Trump pour le prix des médicaments. Et donc, en fait, même en rampant comme ça au pied de Trump, bah, en fait, Trump, il en a rien à foutre et il lui pisse à l'arrêt quand même. Donc, il a tout perdu. On voit bien que Trump, il en a rien à faire, quoi qu'il arrive. C'est pas de lui montrer du respect de cette manière-là, si on peut appeler ça comme ça, qui apporte grand-chose.
Alors, est-ce que vous êtes plutôt kidnapping ou alliance économique ? Dites-nous tout. Plutôt Trump, plutôt vénézuélien ?
Non mais alors désolé, je vais pas répondre à la question, mais quoi? Juste dans le non mais juste ce que je voulais dire, c'est que effectivement en fait qu'on rampe ou qu'on soit avec ou contre Trump par politesse, par protection, etc., ça ne change rien. Il faut juste assumer d'être contre, mais c'est pas obligé de le faire de par les armes et par des menaces nucléaires, mais juste en fait cette stratégie là enfin, limite hypocrite en fait du gouvernement français, c'est assez désolant, c'est assez désespérant quoi. Donc
pour toi, il faut une réaction pacifique au fait que Trump colonise le monde.
Bah pacifique dans le sens oui, j'en appelle pas à une guerre directement, non. Si on peut éviter les armes, ce serait bien. Mais par contre, en fait, vraiment faire jouer les réactions internationales et arrêter d'être dans ce truc de mettre des formes.
Moi, je pense que si on condamne pas sur le fond, faut au moins condamner sur la forme, parce que je trouve ça extrêmement inquiétant que de plus en plus de pays se sentent légitimes de bafouer comme ça le droit international, surtout. J'avais vu aussi une vidéo qui disait que c'était logique qu'une partie des Vénézuéliens, parce que c'est pas tous les Vénézuéliens, qui se sentent soulagés temporairement par cette, entre gros guillemets, libération de la part de Trump, mais que dans tous les cas, un dictateur n'en vaudra jamais un autre, et qu'il faut pas se leurrer sur les raisons de cette... que Trump envahisse le Venezuela, voilà, il le fait pas parce qu'il est sympa, hein, il s'est pas dit je vais délivrer tous les pays où il y a des dictateurs de leurs dictateurs, il fait ça pour des intérêts clairement égoïstes, et je trouve ça très inquiétant en vue en plus du climat dans son propre pays et du climat général de tension et de manque de respect, voilà.
Par rapport à ça, et Trump lui-même a pris plaisir à dire qu'il a regardé toute opération se dérouler depuis sa résidence en Californie, bien confortable à la télé, comme s'il s'agissait d'une émission. Et je pense vraiment que pour lui, c'est un jouet, quoi. Il s'amuse. Et cette attitude-là, ça me fait peur. Bah, comme tu as dit, avec ce qui se passe maintenant aux États-Unis, on a un autre sujet d'actualité, mais bon, alors je ne sais pas si c'est le moment de l'aborder, avec... Nicole Good, vous avez sûrement tous entendu parler,
qui s'est fait tuer par les agents de l'ICE dans sa voiture. T'as pas vu?
C'était... Sortir un peu les gars. Voilà.
Pourtant la ICE, mais bon.
Moi, ce qui me fait peur, c'est aussi la réaction de notre premier ministre. Le Cornu, j'ai écouté ça dans le Blablacar tout à l'heure, en fait, il y avait la radio, et en fait, le Cornu, il nous disait qu'en fait, pour lui, l'annexion du Groenland, c'était un petit peu comme nos territoires d'outre-mer, en fait. Nous, on avait des territoires d'outre-mer, et pourtant, ils avaient quand même une souveraineté, donc à partir de là, que ça posait pas forcément gros problème. Et je trouve ça un peu choquant, mais voilà, c'est vrai qu'on a des territoires d'outre-mer, et même s'ils semblent avoir une souveraineté, c'est pas du tout des manières de conquérir en fait un espace, et je trouve ça vraiment décevant de voir la réaction de la France justement par rapport au choix que Trump fait.
Mais donc ça veut dire que là, si demain Trump il décide de s'en prendre à la Martinique par exemple,
c'est ça,
ouais. La France ne dirait rien.
C'est ça le problème, c'est que est-ce que à chaque fois la France va se plier et dire bon, bah, de toute manière, si on réagit, ça va être la cata. Ou est-ce qu'à un moment, on va aussi choisir de déclarer cette troisième guerre mondiale qui est en suspens là, depuis des années?
Attends, tu veux déclarer la troisième guerre mondiale à l'armée la plus puissante du monde et au pays le plus militarisé au monde?
Sur cours de néant.
Mais on ira tous au front. Non, mais je veux dire.
Pour le Groenland, ok.
Bien sûr, il faut sauver cette terre-là. Non, mais je veux dire, est-ce que si même pour ces choses-là qui sont, on va dire, minimes face à attaquer directement un pays. Si même pour ça on réagit pas, est-ce que ça veut dire que la France va jamais réagir? Est-ce que ça veut dire que même l'UE va jamais réagir? Parce qu'il faut pas froisser ce président, enfin, c'est une menace mondiale. Et
bah après, au Groenland, je crois, il me semble qu'il y a qu'une seule base militaire étrangère qui est américaine, et là récemment il y a le Danemark qui a décidé de renforcer les militaires Danemark.
Danois.
Ouais, oh là, oui, oh là là. Oh là là, je suis déçu de moi-même.
C'est la reprise, voilà, bonne année 2026.
Mais, donc la présence militaire danoise. Oh ouais, non, c'est pas facile. Hein.
Il y a déjà plusieurs bases américaines.
Plusieurs, il me semblait qu'il n'y en avait qu'une seule. Mais en tout cas, est-ce qu'il ne me semble pas qu'il y ait d'autres pays qui soient présents au Groenland. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, ils ont renforcé la présence militaire danoise au Groenland. Et ça montre quand même une certaine cassure, parce qu'ils permettent aux États-Unis de s'implanter militairement au Groenland, et là ils disent nous aussi on est là quoi. Donc certes c'est donc
ça montre que c'est pas, enfin qu'ils acceptent pas ça.
Voilà,
en fait,
ils acceptent pas tout. Après c'est au vu des déclarations des différents pays, c'est sûr que il y a quand même beaucoup de d'acceptation un peu trop importante, je trouve. Mais je pense que on fait pas rien. On fait pas suffisamment. Je sais pas comment faudrait s'y prendre. Après c'est des histoires de géopolitique. Je suis vraiment pas. C'est des sujets qui sont délicats. Mais je pense que on se rend compte de ce qui se passe, mais qu'on ne sait pas trop comment aborder le sujet, quoi.
Après, Elias, tu parles de réarmement, mais on a aussi une marge économique encore. Je pense pas qu'on est obligé d'en venir vraiment aux armes tout de suite. Les États-Unis ont énormément de dettes, et les Nations Unies peuvent facilement bloquer toute aide financière. Et voilà. Résister de cette manière-là.
Après, les États-Unis, c'est l'aide financière et militaire de beaucoup de monde aussi. Donc, il y a pas mal de gens qui dépendent de l'armement des États-Unis.
Comme.
comme par exemple, il y a des avions, il y a des chars, il y a des. Comment ça s'appelle ? Des munitions, des obus, il y a plein de. Je sais pas, le militaire américain, c'est quand même. Répandu.
Non, mais c'est surtout l'Ukraine en fait. C'est que si jamais les États-Unis cessent de soutenir militairement l'Ukraine, Vladimir Poutine remporte son pari et nous on se retrouve face à lui. C'est pour ça qu'on peut pas brusquer Trump.
Alors moi je vais juste faire deux observations. Ça fait quand même deux éléments qui font très néocolonialisme. Ce qui a été dit sur l'Antarctique comparé à. Le Groenland, pardon. Comparé aux Antilles, au département d'outre-mer. Et secondo, du coup, de l'impérialisme, aussi de la néocolonisation en Amérique latine par Trump. Et deuxième chose, juste, il n'y a pas des femmes qui ont voulu répondre au reportage ? Je demande parce que souvent les femmes se sentent moins légitimes à parler de politique. Et du coup, pendant le micro-trottoir, c'était parce qu'il n'y avait que des hommes ou parce que.
Désolée, Clara, mais je crois que la question va devoir rester en suspens.
Je laisse la question ouverte. Voilà. On continue le débat.
Trois points de suspension.
La prochaine fois, peut-être. Allez, après ce débat haut en couleur, on était presque à ça de se rallier au mouvement punk. Hein. D'ailleurs, on n'est pas les seuls, puisque dans son nouvel album Dumb Dumb, dont la sortie est prévue pour ce vendredi 16, dans deux jours, enfin, Asaproki a l'air de s'approprier ce mouvement dans Punk Rocky, tout de suite dans Cours d'honneur. Forgive and I do not forget. Il est 18h21 sur Radio Campus et 20h21 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter Punk Rocky de ASAP Rocky. Mais pour encore mieux commencer l'année, non pas en musique cette fois-ci, nous avons le plaisir de recevoir Romuald Gallet, directeur général de la Fondation de Sorbonne Université.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, je suis vraiment heureuse de vous retrouver sur RSU. C'est un plaisir tout particulier d'être au micro ce soir puisque c'est ma toute première émission du haut de mes 20 ans. Et pour cette première duo,
Et cette première, du haut de ce nouveau cap, nous recevons un invité dont le rôle est crucial, mais souvent méconnu des étudiants malheureusement. Il a pris ses fonctions à la mi-septembre 2025 avec une ambition majeure, faire de la générosité privée un moteur stratégique pour notre établissement. Romuald Gallet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le nouveau directeur général de la Fondation Sorbonne Université. On vous décrit souvent comme un bâtisseur de ponts, excusez-moi, entre le monde académique et la société civile. Mais pour être tout à fait explicite sur vos missions, vous êtes le garant du lien entre l'université et ses mécènes.
Exactement.
Pour commencer cet entretien, Romuald Gallet, lorsqu'on arrive à la tête d'une institution comme la Sorbonne, quel est le premier défi que l'on rencontre pour convaincre des donateurs de s'engager à nos côtés ?
Alors, je suis à la tête de, pas de la Sorbonne, hein, de la Fondation Sorbonne. Déjà, les défis, ils sont assez nombreux. Il faut déjà comprendre le positionnement qu'on a. C'est-à-dire que nous, notre travail, ça consiste à faire de la philanthropie. Voilà, donc pour ceux qui ont fait des études de grec... La signification est assez claire. On fait du mécénat, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver des personnes qui sont prêtes à soutenir financièrement un certain nombre de projets et d'initiatives pour le compte de Sorbonne Université. Donc on travaille exclusivement pour SU, mais pour l'ensemble des composantes de Sorbonne Université, donc les trois facs. Arts, lettres, humanités, sciences, ingénierie et la fac de santé. Et notre travail, ça consiste à identifier au sein de Sorbonne Université des projets ou des initiatives de philanthropie et de solidarité qui sont en mesure d'intéresser un certain nombre de personnes pour nous donner des dons, pour faire des dons, et lever des fonds auprès d'elles.
On parlait de philanthropie, donc j'ai trouvé une définition peut-être un petit peu vulgaire, mais en tout cas c'est un pont entre une élite et la société civile, c'est bien ça ?
Pas forcément, non.
Non.
Non. Alors, la philanthropie, tout le monde peut en faire. Hein. Moi, je peux en faire, vous pouvez en faire. J'ai fait un don pour les étudiants cette année. Donc non, pas forcément. On agit à la fois auprès des grandes entreprises qui ont envie d'agir pour la société et on les sélectionne et on fait attention à, avec qui on travaille, d'où viennent les fonds. Et on fait attention aussi au but, si vous voulez, de ces projets. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ça ? Ils n'ont pas forcément envie d'être connus pour ça, donc on respecte ce secret-là aussi. On a des donateurs, par exemple, qui ont donné beaucoup d'argent pour des bourses auprès d'étudiants qui ne sont pas forcément connus de votre communauté, mais qui veulent agir parce qu'ils ont réussi dans la vie et qui veulent donner. C'est ce qu'on appelle la culture du give back. Maintenant, la philanthropie, effectivement, c'est une bonne question que vous posez parce que souvent, on associe philanthropie avec des gens qui ont beaucoup de richesses, beaucoup de wealth. Donc, c'est vrai, quand on parle à des entreprises, c'est souvent des structures qui font de l'argent. Maintenant, nous, on essaye d'identifier celles qui ont envie de l'utiliser à bon escient et de trouver des projets au sein de Sorbonne qui puissent motiver cette envie de le faire. Je vais vous donner un exemple très, très, très concret. On a lancé l'année dernière une chaire qui s'appelle « Échec au cancer » à la Salpêtrière, donc avec la fac de santé. Et là-dedans, on a 22 projets de recherche qui ont pour but ultime de faire échec au cancer. Donc moi, quand je me lève tous les matins, et mon équipe, quand on se lève tous les matins, ça consiste à aller chercher des gens qui sont prêts à financer ça. Et une fois qu'ils ont financé ça, on leur donne un certain nombre d'étapes et on leur donne un certain nombre de, je vais appeler ça des livrables. On peut communiquer aussi autour de cette chaire pour mobiliser autour de cette cause-là. Donc je vous donne cet exemple-là. Il y a des gens qui participent à titre individuel, privé, qui font des petits dons. D'autres qui ont des entreprises, qui donnent des beaucoup plus gros dons. Mais ils le font tous pour une bonne raison. Vous voyez, on parlait de Trump là, il y a 5 minutes. Je pense que... ce que l'on fait est à la fois motivé par le but qu'on veut atteindre, mais aussi la raison pour laquelle on le fait. Quand vous êtes face à de l'imprévisibilité, comme ce qui se passe avec Trump, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, si vous regardez ce qu'il fait, son métier, c'est un métier de promoteur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le Groenland ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le Venezuela ? Il essaye d'acheter des terres. Il essaye de mettre la main sur des terres. C'est extrêmement compliqué de travailler avec ce genre de personnes. Donc, quand on travaille, nous, avec des mécènes, on s'assure que la volonté qu'ils ont de participer est vraie, est réelle. Et on s'assure aussi de cadrer le projet dans lequel ça s'inscrit. Et ça, c'est le travail, c'est mon travail et c'est le travail de mon équipe.
On parle de bourse, on parle de grosses entreprises. Justement, il y a une question qui revient beaucoup.
Pas uniquement des grosses, hein, il y a des petites entreprises aussi.
Bien sûr, le secteur privé en général. Ouais. Il y a justement une bourse qui fait un petit peu débat. Le programme Passeport pour le master qui aide les bacheliers avec une bourse de 10 000 euros par an. Donc c'est une chance incroyable, mais il est financé par Safran, une entreprise d'armement et d'aéronautique très contesté par une partie des étudiants de Sorbonne Université. Comment choisissez-vous alors vos mécènes? Y a-t-il des lignes rouges éthiques à la Fondation?
Alors déjà, en ce qui concerne Safran, c'est une entreprise qui travaille depuis très très longtemps avec Sorbonne. Donc nous, on travaille avec les entreprises qui sont déjà partenaires de Sorbonne. Ensuite, oui, on est en train de mettre en place un comité de due diligence, en fait, qui vérifie à la fois l'entreprise et son activité, et qui vérifie aussi la provenance des fonds. Et pour vous donner un exemple, l'année dernière, on a refusé un très très gros don d'une valeur de 500 000 euros, alors que on aurait pu le prendre, hein, mais on l'a refusé parce qu'on n'était pas sûr de la provenance des fonds. Donc on s'assure qu'il y a une certaine sécurité dans ce qu'on fait, parce que justement on veut travailler dans un cadre sain avec les entreprises avec lesquelles on est en partenariat.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du secteur privé, mais dans une université publique comme la nôtre, est-ce que ce lien justement ne va pas donner trop de pouvoir au secteur privé sur nos programmes de recherche?
Non, au contraire, moi je pense que c'est très compliqué de rendre complètement étanche un établissement d'enseignement avec le monde socio-économique. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand vous faites de la recherche, vous travaillez, vous pouvez aller dans n'importe quel labo de la Sorbonne, enfin la grande majorité travaille avec des entreprises. La question est, encore une fois, dans quel contexte on le fait? Quel pouvoir on leur donne? Nous, on s'assure, en fait, on est garant, quelque part, de l'indépendance de Sorbonne Université. D'ailleurs, on est une organisation indépendante, c'est-à-dire qu'on est une fondation, une structure partenariale qui travaille pour Sorbonne Université, ce qui nous donne une certaine indépendance de décision par rapport aux entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, il n'y a pas d'ingérence. On fixe un objectif qui peut être un objectif de recherche. Je vais vous donner un autre exemple. Avec l'Institut de l'Océan et la station marine de Villefranche, on a un projet qui s'appelle Adopt Float, qui est financé, vous connaissez, non?
Okay. On a été faire un reportage il y a un
vous
mois.
Vous êtes allé, ouais. Qui est financé par ST Microelectronics, EDF, BNP Paribas. Évidemment, pour eux, ça leur donne une bonne image. Mais évidemment, pour nous, ça nous donne des moyens. Ça nous permet d'aller chercher de la donnée. Cette donnée, elle est remontée auprès d'à peu près 130 laboratoires dans le monde et participe aux travaux du GIEC. Donc, si ST Microelectronics me dit « Ok, j'ai envie que vous communiquiez autour de ce projet et que nous, ça nous sert après à faire du lobbying auprès des bonnes instances pour montrer, pour prouver scientifiquement qu'il y a un réchauffement climatique, pourquoi pas ?» Et on le fait. Vous voyez, après les lignes rouges, c'est à nous de les décider. C'est nous qui le faisons à la Fondation, qui le faisons, et bien sûr en collaboration avec la gouvernance de Sorbonne Université. Mais il n'y a pas d'antinomie à tirer de ça. Au contraire, je pense qu'il y a des partenariats à faire.
En parlant de partenariats et de soutenance de projets, la Fondation a soutenu Molière Ex Machina,
oui.
en latin, où une IA a écrit une pièce à la manière de Molière. En tant que radio-étudiante, on s'interroge tous. Est-ce que le rôle de la Fondation de financer des outils qui, à terme, pourraient substituer la création humaine ou le travail des chercheurs en humanité?
Alors, ce n'est pas l'IA qui écrit la pièce. On se sert de l'IA, en fait, pour recréer les conditions dans lesquelles les pièces de Molière étaient créées. C'est pas la même chose.
Ok, parce que, en fait, oui, c'est vrai que j'ai lu qu'en fait, on avait donné toutes sortes d'outils, en fait, à l'IA pour générer une pièce écrite selon Molière.
Non, non, non. La pièce, elle est écrite avec un collectif d'artistes qui s'appelle Obvious, donc qui travaille là-dessus, qui travaille avec le théâtre Molière, donc qui est une structure de Molière Université, de Sorbonne Université. L'IA est un outil, en fait, et l'IA nous permet, en fait, de recréer les décors comme à l'époque, nous permet de recréer les costumes comme à l'époque, la musique comme à l'époque, le phrasé comme à l'époque. Évidemment, derrière, il y a tout un travail de développement pour recréer une pièce de Molière. La question qui se pose dans tout ça, c'est: est-ce que ça va être drôle? Est-ce que ça va être bon? C'est ça le sujet. C'est le sujet qu'on se pose tous. C'est quand on va donner la première représentation, est-ce que ça va être, est-ce que ça en valait la peine? Moi, je pense que oui. Je pense que justement, il faut un établissement d'enseignement. C'est aussi, vous le savez, un établissement de recherche. On fait du test and learn. Donc, on utilise en fait les ressources qui sont à notre disposition. On a beaucoup de laboratoires IA. On a une fac très puissante d'art, lettres et humanités. Et on fait se rencontrer ces deux mondes-là pour voir comment ils peuvent coexister. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'IA existe. Elle est très très peu régulée, très très peu. Je trouve ça assez dangereux d'ailleurs, pour tout vous dire. Donc il faut savoir comment on peut l'utiliser pour en faire le meilleur usage possible. Et dans le contexte artistique, bah ça nous sert en fait de valeur d'exemple et puis de recherche pour inspirer d'autres générations de créateurs. Mais c'est pas l'IA qui écrit, on n'a pas lancé un prompt, vas-y, fais-moi une pièce de Molière.
Merci d'avoir éclairé la situation, c'est vrai que...
Ah oui, mais non, mais...
C'était pas
c'est important,
clair.
Oui. Merci pour la question.
Oui, et puis pour le positionnement aussi de la Fondation sur l'utilisation de l'IA, très intéressante. En parlant de faculté des lettres et sciences humaines, depuis 2009, 23 millions d'euros ont été levés, mais 70% vont à la santé et une grande partie au reste des sciences. Oui. Les étudiants en lettres et sciences humaines ont parfois l'impression d'être les oubliés du mécénat. Romuald Gallet, avez-vous des projets concrets pour que les entreprises s'intéressent enfin au profil littéraire?
Mais bien sûr.
On vous écoute.
Alors, pour être tout à fait honnête, déjà pour commencer, Molière Ex Machina en est un. C'est un projet qui s'inscrit là-dedans. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi Digital de la Croix qui est piloté à la fois par la... Vous connaissez, non, Digital de la Croix ou... Ok. Donc à l'Assemblée nationale, toute la voûte du plafond de l'Assemblée nationale a été peinte par de la Croix. Et on a une équipe qui est alors, dirigée par Barthélémy Jobert, qui est le président de la Fondation, qui pilote ce projet-là pour, en fait, refaire la voûte, comme à l'époque, en utilisant des outils d'IA qui nous permettent de recréer le plafond de l'Assemblée nationale tel que Delacroix le voulait, et de faire des études, de la recherche autour de cette œuvre. Donc là, on est en plein dans ce sujet-là. Donc c'est à la fois des chercheurs de l'Institut de Sky, qui est notre institut d'intelligence artificielle, et aussi des chercheurs de la fac de lettres qui s'occupent de ça. Donc ça, c'est juste deux exemples concrets. Après, à côté de ça, comme vous l'avez dit, j'ai pris l'équipe il y a 4 mois, et là, j'ai recruté 4 personnes. Et il y aura une personne qui est une ancienne, d'ailleurs, étudiante de Sorbonne Université, qui va s'occuper de développer le mécénat pour la partie arts, lettres et humanité. Donc, voilà, pour le moment, voilà où on en est. Il faut nous donner le temps de développer un ensemble de projets. Parce que, si vous voulez, nous, on a deux types de clients. On a à la fois, ou de partenaires, on a les gens en interne. Et il faut que j'arrête, non. On a les gens en interne, c'est-à-dire les chercheurs qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et on a les entreprises qui sont susceptibles de nous financer. Et nous, on sert de point de convergence. C'est-à-dire qu'on les fait se rencontrer. Ce qui veut donc dire que moi et mon équipe, il faut qu'on sache ce qui se passe au sein de Sorbonne Université. Vous voyez, les questions que vous me posez, je ne les avais pas. Hein. Ce serait un peu inquiétant que je ne sache pas de quoi vous parlez. Et à côté de ça, il faut que les entreprises le sachent. Et là, c'est notre boulot d'aller faire du développement, de faire quelque part la promotion, d'aller chercher des mécènes qui sont prêts à financer sans contrepartie. Hein. Le mécénat, il n'y a pas de contrepartie financière. Le seul bénéfice qu'ils ont, c'est éventuellement en termes de communication, parce qu'ils mettent leur logo sur une affiche où, voilà, où on fait un événement ensemble. Donc ça va être le travail de cette collaboratrice, de travailler uniquement avec des chercheurs et avec toutes les composantes, en fait, de la fac de lettres. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Après, on fait déjà des bourses, hein. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup d'étudiants qui bénéficient des bourses qu'on lève auprès d'entreprises et auprès de donateurs individuels. Et ça, j'aimerais qu'on le poursuive. Ça fait partie de notre feuille de route sur la solidarité.
Donc des beaux projets à venir de la part de la Fondation.
Ah bah oui, on va essayer, oui.
Dernière question, nous arrivons au terme de cet entretien. Avant de nous quitter, il nous reste une tradition dans cette émission, une question que nous posons à chacun de nos invités. Pour vous qui travaillez aujourd'hui à son rayonnement, que représente la Sorbonne pour vous?
Oui, justement, ça représente à la fois un héritage extrêmement fort et quelque chose que j'ai envie d'aider à porter vers l'avenir, dans le sens où j'ai envie de... Comment ? Notre travail consiste à aider le bien commun. Et au sein de Sorbonne Université, il y a une telle palette de talents. Honnêtement, quand je me lève, que j'arrive ici le matin, que je rencontre les chercheurs, que je vous rencontre vous, je suis à Noël, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, j'ai envie à la fois de faire connaître ça, de le faire plus connaître, parce que je trouve que la marque est extrêmement forte, mais que moi, j'ai toujours beaucoup travaillé avec des entreprises. Et j'ai envie que cette richesse-là, elle bénéficie au monde, elle bénéficie à la recherche, elle bénéficie à la société, elle bénéficie à aider les entreprises à aller dans le bon sens aussi. Parce qu'il y a des technologies qu'on développe qui sont des technologies vertes qui peuvent avoir un réel impact sur le monde. Et tout ça, ça se fait ici. Sorbonne, on a 2000 contrats de recherche, c'est 135 laboratoires. On a le plus grand institut sur l'océan d'Europe, c'est même plus grand que l'Ifremer. Et quand vous vous baladez dans la rue et que vous en parlez aux gens, ils ne le savent pas forcément. Donc ça, j'ai envie de le faire connaître. Donc pour répondre plus précisément à votre question, c'est partir d'une tradition, d'un héritage, le porter vers la modernité et que ça ait un véritable impact. Il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Marc Jacobs, qui est un designer, et en fait il a dirigé LVMH aux États-Unis. Alors c'est pas pour donner un exemple sur LVMH, hein, mais c'est parce qu'il disait un truc qui est très vrai. Je bosse pour une boîte, en fait je la vois comme un arc électrique entre tradition et modernité. Comment je gère ça? Comment je ne perds pas ce côté, notre ancrage et notre histoire, et comment je crée un nouvel héritage pour les générations futures. Et j'espère en tout cas que l'équipe de la fondation que je dirige, avec l'ensemble de toutes les composantes de la fondation dont vous faites partie, hein, va aider à ça.
Et bien avec toutes ces paroles très inspirantes, Romuald Galli, on vous remercie, nous étudiants
merci
de Sorbonne Université. Merci d'être venu dans le studio de RSU pour Cours d'honneur. Pour ce premier échange, c'était important pour nous d'y voir plus clair sur le rôle de la Fondation et sur la place du mécénat sur notre campus.
Merci beaucoup.
Merci à vous deux pour cette interview. Merci beaucoup pour être venus ce soir. Maintenant, parlons chanson. C'est l'une des plus grandes icônes de la chanson British, mais aussi de la mode. Elle revient pour notre plus grand bonheur après 7 ans de silence. C'est Lily Allen avec Pussy Palace, tout de suite sur Cours d'honneur.
To the apartment in the West Village instead. I'll drop off your clothes, your mountain medication. I'm already on my way, heading to the station. Stuck on the F, there's a problem on the line. I couldn't be more stressed, I'm losing my mind. Up to the first floor, key in the front door. Nothing's ever gonna be the same anymore.
h41 sur Radio Campus Paris et 20h41 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter Pussy Palace de Lily Allen. Si je pouvais, j'aimerais écouter cette femme jusqu'au bout du second semestre, mais on est d'accord pour se dire que ça risque d'être un peu long. Heureusement, j'ai entendu dire qu'il y avait des remèdes à mon ennui dans la chronique des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, la table!
En janvier, il y a deux teams, ceux qui sont surbookés et ceux qui sont pratiquement au chômage en attendant le deuxième semestre. Alors que faire en janvier pour ceux qui sont encore en vacances? Mathilde nous a déniché quelques bons plans.
Avis à tous nos journalistes en devenir ainsi qu'aux curieux et à ceux qui aiment faire semblant de travailler en janvier, les médias vous ouvrent grand leurs portes. C'est le cas notamment de Média en scène qui revient pour une 8e édition le 15 janvier, soit demain. Il s'agit du premier festival des médias créé par France Info et le groupe Les Échos le Parisien. C'est un peu comme un rock en scène mais version média en un peu moins déjanté. Et en gros, c'est l'endroit parfait pour écouter des pros parler de l'avenir de l'info, poser des questions ou juste hocher la tête en faisant mine de tout comprendre. Le thème de cette édition 2026 est Nouveau Monde, Nouveau Pouvoir. pouvoir. Et la question qui se pose est comment les médias se réinventent face aux ruptures politiques et technologiques. On y parle donc d'IA, de réseaux sociaux, d'illibéralisme et du rôle des médias dans tout ça. Bref, tout ce qui fait peur et fascine à la fois. Et en parlant de réseaux sociaux, le youtubeur français Joyka sera présent pour débattre du rôle des créateurs de contenu au sein du paysage médiatique. Pour vous donner les autres grosses têtes également présentes lors de ce festival, il y aura Samuel Etienne, la présidente de France Télévisions, Bruno Patino pour Arte ou encore le vice-président de Webedia. L'événement est gratuit et accessible en ligne sur inscription via le site de Médias en Scène parce que le présentiel, lui, est déjà complet, succès oblige. Ensuite, vous pouvez faire un tour du côté du Grand Palais qui ouvre ses portes au Figaro pour ses 200 ans, au programme des dizaines de conférences avec des spécialistes du métier, des débats, des projections, bref, une grande exposition immersive qui dévoile plus de 300 documents comme des unes de journaux, des illustrations, des photos d'époque ou encore des textes de grands auteurs comme Proust ou Jean d'Ormesson qui ont écrit pour le journal. L'entrée est gratuite à nouveau et vous pouvez vous inscrire sur le site 200ans.lefigaro.fr. Et enfin, dernier bon plan radio cette fois-ci, sachez que vous pouvez assister à des émissions radio en direct. France Inter vous propose notamment de nombreuses émissions comme Le Masque et la Plume avec Rebecca Manzoni, mais aussi Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel ou encore l'émission de Mathieu Noël Zoom Zoom Zen. Pour réserver vos places, il suffit de vous rendre sur le site de la Maison de la Radio. Vous allez dans la rubrique Émissions publiques, puis vous sélectionnez l'émission qui vous tente le plus. En somme, il y a pas mal d'activités sympas pour vous offrir un premier chemin vers les médias. Le tout, c'est d'être curieux et d'aller voir les choses en vrai.
Merci Mathilde, dis donc là j'ai très très envie d'aller à tout ce que tu as proposé là, vraiment très bonne pub. Allez, grâce à toi maintenant on va tous pouvoir s'aérer l'esprit finalement au lieu de scroller des heures sur TikTok. Hein. Nous restons à Paris, je suis désolée de vous le dire, je sais que vous venez de finir vos partiels mais nous retournons à la Sorbonne. Puisque j'ai cru entendre que notre inspectrice Alice avait une affaire très importante sur les bras dans la chronique pavée.
Shut up. Inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas.
Ce soir, nous avons rendez-vous avec la mort, littéralement. La Sorbonne a beau être sublime, il ne s'est pas toujours passé des choses si belles à l'intérieur. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas l'inspecteur Colombo qui est ici avec nous pour vous protéger et démasquer ce serial killer, mais notre chère Alice.
Tout débute dans les années 80 parisiennes avec Issei Sagawa, brillant doctorant en littérature comparée à la Sorbonne Nouvelle à Paris, un étudiant aux allures les plus banales qui a sûrement fait des blagues à ses camarades à la machine à café et qui se mettait bien avec son appart dans le 16e. Mais Issei, l'élève modèle, a un secret peu commun, des fantasmes cannibales qui vous feront déculpabiliser de vos fantasmes de pieds manucurés, chers auditeurs.
J'ai des goûts très particuliers.
Notre futur criminel, lui, son petit plaisir coupable culinaire, c'était pas la boîte de 4 beignets choco de chez Monoprix à 2€ à s'enfiler dans la journée. Non, je parle pas d'expérience. Non, lui, c'était les femmes blanches, surtout blondes. On a dit « hit girl », mon grand, pas « hit a girl », comme quoi travailler son anglais, c'est important. Il tente de tuer une étudiante allemande au Japon en 1972, mais la victime retire sa plainte contre de l'argent. Issei ayant obtenu une maîtrise en littérature à l'université d'Osaka, son père décide de l'envoyer étudier la littérature comparée à Paris en 1980 à la Sorbonne. Mais tout redérape le 11 juin 1981. Il invite à dîner chez lui dans son petit appart du 16e donc, une étudiante néerlandaise de 24 ans, Renée Hartevelt, étudiante, comme lui, la littérature comparée à l'université Paris 3. Le motif, un de leurs professeurs lui a demandé d'enregistrer des poèmes expressionnistes allemands. Pour l'instant, un date normal d'étudiant en littérature comparée, me direz-vous. Ça aurait pu être romantique et j'aurais pu vous dire d'en prendre de la graine, chers auditeurs. Oui, j'aurais pu, si seulement il ne l'avait pas tuée d'un coup de carabine dans la nuque pendant qu'elle récitait à voix haute un poème de Johann Robert Becher.
Ça va encore être de ma faute, tu vois ça, là. C'est vrai, c'est parti tout seul, là.
Je suis désolée pour le jeu de mots que je vais faire, mais il semblerait que Cannibal Lecteur ait encore frappé. Il réalise simultanément un enregistrement audio sur lequel on peut entendre René réciter les vers en allemand sur la mort, puis le coup de feu étouffé par le silencieux de l'arme, suivi par le son de la chute de son corps sur le sol.
Ta gueule toi-même.
Ça va trancher, chérie.
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
La suite est malheureusement bien plus sombre. Après son meurtre, il abuse sexuellement de la victime, puis découpe son corps à la scie électrique et mange petit à petit certaines parties de son corps, 7 kilos en tout. Bouche, nez, etc., etc.
Ah oui. Ah, c'est très bon.
Oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin.
Partie qu'il conserve 3 jours dans son frigidaire. Sympa. Perso, j'ai du miso blanc et du lait d'avoine, mais anyway. Mais il sait, il n'a pas de partie congélo dans son petit frigo étudiant, et j'imagine que tout son ignoble boucherie maison, ça commence à l'encombrer. Il décide donc de se débarrasser de ce qui reste du corps de la pauvre Renée, en plaçant ses restes dans deux grosses valises qu'il amène au bois de Boulogne avant de le pousser dans un caddie trouvé sur le chemin. Je me demande s'ils ne se seront pas inspirés de l'affaire pour le film Le Père Noël est une ordure. Un couple est alerté par sa conduite et appelle la police, qui le retrouve 3 jours plus tard. Mais à son arrivée, Issei avoue tout sans résistance et revendique même son acte, qu'il considère comme artistique. Comme si c'était déjà pas assez coyoté, comme ça, le gars en rajoute et déclare « Si j'avais eu un congélateur, vous ne m'auriez jamais trouvé. » Tout bad Issei, surtout quand il existe.
Le plus cool de la cuisine, le réfrigérateur cybernétique est disponible.
Il est ensuite examiné par des psychiatres qui concluent à un homicide sans autre motivation que de satisfaire une pulsion cannibale, commis dans un état de démence de telle sorte que la responsabilité pénale ne peut être retenue. Un non-lieu est donc prononcé. Et après, qu'est-il devenu, me demanderez-vous ? Eh bien, il est d'abord interné 1 an à l'hôpital de Villejuif, avant d'être libéré et expulsé au Japon en avril 1984. Mais le non-lieu en France crée un vide juridique au Japon, qui est en incapacité de pouvoir le juger légalement. Il est libéré le 13 août 1985. Après ça, il essaye de retrouver un travail et devient prof de français, tout naturellement, dans la plus grande détente, avant que ses élèves ne découvrent son identité, ce qui le force à quitter son poste. Puis en 1989, sévit au Japon un tueur en série d'enfants qui viole et dépèce ses victimes, si bien que la presse nationale engage Sagawa comme consultant. Quelle bonne idée, dis donc ! Il écrit aussi des livres sans succès autour de son crime et apparaît dans des pubs pour des chaînes de restaurants de vente. Miam miam!
Chez Charal, nos bouchers sélectionnent la viande française la plus tendre et la préservent dans un emballage unique, l'hebdopac.
Malgré aucune récidive, il ne cache pas néanmoins le reste de sa vie, que des pensées cannibales l'habitent toujours de façon permanente, bien que ce ne soient plus des femmes de type occidental qui l'attirent dorénavant. Diminué par la maladie, il finira par vivre retiré et un peu oublié à Tokyo avec son frère, et meurt enfin le 24 novembre 2022 à Paris à 73 ans d'une pneumonie. Alors chers auditeurs, que retenir de cette affaire ? À mon sens, méfiez-vous des dates en tête-à-tête de récitation de poèmes allemands. En espagnol ou en italien, ça passe. Puis renseignez-vous sur vos profs de français. On sait jamais, votre prof pipou innocent obsédé par la grammaire pourrait se transformer en Jeffrey Dahmer chez lui, entre deux copies à corriger pour se détendre. Enfin, inspectez toujours le congélo des gens, juste pour être sûr.
Merci Alice pour cette chronique paragoudante mais inédite, on va dire. J'arrive toujours à nous trouver les meilleures anecdotes les plus folles et ça, on adore. En tout cas, on peut dire que cet élève était loin d'avoir une belle âme, contrairement à notre chère Bianca Costa qui nous le prouve dans Belle âme avec Opinard tout de suite sur Cours d'honneur.
Mon plus tendre sourire sur ta belle âme. L'éclat de rire dans tes yeux mouillés m'a volé tes larmes. Mon ami, je t'en supplie, ne perds jamais ta belle âme. Les gens qui t'entourent sont bien plus joyeux quand tu es là. Ton calme et ta joie valent tous les bijoux, le grain de ta voix. Un piano qui joue la plus belle des ritournelles que je connaisse.
Que je connaisse.
Le temps n'en repart, tes mains qui bougent, le chant de tes pas. L'éternel bougie quand les dernières flammes des ciels bleus disparaissent. J'ai déposé mon plus tendre sourire sur ta belle âme. L'éclat de rire dans tes yeux mouillés m'a volé tes larmes. Mon ami, je t'en supplie, ne perds jamais ta belle âme. Les gens qui t'entourent sont bien plus joyeux quand tu es là.
On a tant aimé, on a tant saigné. On a fini blessé, mais on aura essayé. J'ai le corazao clair comme un ciel bleu marseillais. Alors on va fêter, ou du moins essayer. On a tant aimé, on a tant saigné. On a fini blessé, mais on aura essayé. J'ai le corazao clair comme un ciel bleu marseillais. Alors on va fêter, ou du moins essayer.
Il est 18h53 sur Radio Campus et 20h53 sur Radio Sorbonne. Vous êtes sur Cours d'honneur, vous venez d'écouter Belle âme de Bianca Costa et Opinard. Restons dans le registre des fun facts, pas si fun, hein, de la Sorbonne, avec tout de suite la chronique de Sorbonne en personne.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
La colère sociale qui gronde en Iran n'est pas sans rappeler le délitement du régime syrien d'Assad tombé il y a 13 mois. Cette république militaire déchue avait pour parti unique le BAS, dont la forme originelle fut créée par trois diplômés de la Sorbonne, dont nous parle tout de suite Clara.
Et oui. L'Iran est en effet agité depuis fin décembre par une importante manifestation, d'abord économique, partie du bazar de Téhéran, pour se généraliser contre la dictature des Mollahs, au pouvoir depuis la révolution de 1979, qui mit fin au système impérial. L'inflation, le chômage, la chute du pouvoir d'achat, la corruption d'une soi-disant république qui investit l'argent du pétrole dans des interventions régionales et des forces de répression, nourrissent des slogans anti-régime, comme « Mort à Khamenei », « Le grid suprême » ou encore « Nous au Hamas, nous au Liban, je défends ma vie pour l'Iran ». Et Trump d'en profiter pour jouer le gardien de la paix, comme au Venezuela. Le 8 janvier, il menace en effet de frapper très fort l'Iran. Et lundi, il annonce 25% de droits de douane à tout pays commerçant avec ce pays. Inflation, corruption, sanctions économiques occidentales, le tableau n'est pas sans rappeler la révolte populaire syrienne, débutée en 2011 contre Bachar el-Assad, dont la dictature tomba fin décembre 2024. Ce printemps arabe s'était en effet accru avec une loi promulguée en 2019 pour imposer de lourdes sanctions au régime syrien et à tout potentiel partenaire commercial. La même année, une faillite du système financier libanais ne tarda pas à impacter la Syrie. Les revendications démocratiques vinrent s'ajouter au délabrement du régime présidentiel de parti unique, le BAS, dont la forme originelle fut conçue par trois étudiants syriens passés par la Sorbonne, Michel Aflaq, Zakit al-Arsoui et Edine Bitar. Respectivement chrétiens alaouites et sunnites, tous les trois ont fait leurs études à la Sorbonne, où Aflaq et Bitar fondent l'Union des étudiants arabes de France et militent ainsi activement pour la souveraineté et l'indépendance des peuples arabes de 1928 à 1933. Rappelons que les deux Sorbonnards nés à Damas dans les années 1910 proviennent de familles politiquement engagées contre l'Empire ottoman, puis contre la présence française, mandatrice française en Syrie. Dans un Paris qui est devenu le centre du rayonnement du nationalisme arabe en raison du grand nombre d'étudiants arabes présents dans la ville, il s'intéresse alors aux nouvelles idées de penseurs tels que Georges Sorel, Nietzsche, Bergson, et leur éducation les rend également sensibles à la puissance de réflexion doctrinale, comme en témoigne Aflaq. Je le cite. « Avant de venir en France, je n'étais qu'un nationaliste arabe de sentiment. Le nationalisme était notre réalité locale, mais à Paris, je fus en contact avec d'autres théories et je conçus que le nationalisme devait reposer sur des bases solides et envisager tous les champs, la politique, la culture, le social, l'économie. » De retour en Syrie en 1932, il enseigne l'histoire et Bitar les sciences naturelles au lycée Tahrir al-Oula de Damas, sans perdre leur engagement politique. Ainsi, ils influencent leurs élèves sur ce qui se passe dans le monde arabe, ils soutiennent la révolution irakienne contre le gouvernement pro-britannique et ils démissionnent de leur poste pour protester contre la répression menée par les forces coloniales françaises contre les lycéens syriens. L'année suivante, les deux enseignants fondent le parti BAS, signifiant Renaissance en arabe. Ce parti politique laïque entend combiner le socialisme arabe opposé au marxisme et le nationalisme pan-arabe. Unité, socialisme, liberté, notamment vis-à-vis des intérêts occidentaux, devient alors la devise formalisée par le congrès de 1947. Michel Aflaq, nommé secrétaire général du BAS, à cette occasion va notamment convaincre le président égyptien Nasser à une fusion entre les deux pays. En 1968 naît donc la République arabe unie, censée faire face aux tensions internes liées à la guerre froide. Or cette union est un échec et les militaires prennent le contrôle du pays, la direction nationale du parti. Le BAS s'impose alors comme un parti très structuré qui dépasse les frontières de l'État et se retrouve en 1963 au pouvoir dans deux pays, l'Irak et la Syrie. Or ce qui fait sa force est aussi son point faible, le panarabisme regroupant des idéologies diverses. Ainsi, la série de coups d'État militaires en Syrie provoque, en 1966, une scission du parti entre la branche irakienne et syrienne, contraignant Aflaq et les autres cadres de partir en exil. En Irak, il accepte le poste symbolique de secrétaire général du comité panarabe du BAS. Tandis qu'en Syrie, en 1970, Hafez al-Assad, de la fameuse famille Assad, met en place un régime autoritaire fondé sur une centralisation du pouvoir au sein du parti BAS et une emprise étroite sur l'appareil sécuritaire. J'en finirai là-dessus. Le BAS démontre ainsi que le politico-culturel ne peut à lui seul créer une unité solide et bénéfique. Si la Sorbonne fut ici le lieu de rencontre et de maturation militante, l'actualité nous appelle à chérir ce droit à l'expression de nos opinions, alors la peine capitale a été prononcée à l'encontre d'un manifestant iranien. Alors pour tous ceux qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, parlons, car c'est aussi ça, la Sorbonne, une opportunité d'engagement.
Merci Clara pour cette chronique très intéressante. Mais maintenant, on va parler de sujets un peu plus légers, parce qu'on va partir se détendre tout de suite dans la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. On m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Pour cette carte postale, Lavinia est allée nous dénicher un petit coin relax, pas mal après les partiels, nommé Atrium. C'est un espace à plusieurs étages avec différents cours et endroits de détente sur le campus, évidemment de Jussieu. Tout ça rigoureusement présenté par Antoine, étudiant en master 2 d'immunologie et de biothérapie à Sorbonne Université.
Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis étudiant en master 2 de immunologie et biothérapie à Sorbonne Université et on va découvrir l'atrium ensemble. Donc on va entrer maintenant, ça c'est l'entrée, il y a beaucoup d'escaliers, il y a un escalateur mécanique, ça ressemble un peu à Squid Game je trouve, cette salle ici. Je trouve que ça ressemble vraiment à Squid Game, un peu cette scène où on monte avec tous les participants, particulièrement avec les escalateurs qui se croisent de partout. D'ici, on peut regarder hors des fenêtres, on peut voir la cour qui mène au restaurant universitaire, où il y a différentes salles, il y a des salles informatiques par exemple, un peu plus haut, il y a des salles de TP, de biologie majoritairement qui sont utilisées. Donc maintenant, on monte au troisième étage. Ici, il y a particulièrement, comme j'ai dit avant, des salles de TP, de biologie. Je me souviens que l'année dernière, quand j'étais en M1, j'ai fait plusieurs TP ici de biologie moléculaire et développementale. Donc maintenant, on monte encore un étage de plus, dans le quatrième étage, ce qui est presque la fin. Il y a 5 étages en total dans l'atrium. On peut aussi trouver des tables métalliques avec des chaises où on peut travailler en groupe avec d'autres étudiants ensemble pour faire par exemple des devoirs ou des exercices qu'il faut faire ou réviser. Et on arrive à la fin. Voilà, c'est le dernier étage, le cinquième. Je suis ici cette semaine pour un cours d'analyse de données en cytométrie, ça s'appelle. C'est une technique en immunologie pour étudier les cellules et pour regarder l'expression de marqueurs à la surface des cellules. On passe le temps dans une salle de TP informatique où on fait ça. Donc c'est à cause de ça que je suis ici. Normalement, pour les autres cours, je passe la majorité de mon temps dans les tours du campus du Jussieu. Donc en bas, il y a une petite cafette aussi où on peut prendre un café, des muffins, des choses comme ça. Ensuite, il y a aussi une bibliothèque en bas et des différents endroits où on peut se reposer avec des amis, où on peut parler.
Voilà. Ça a toujours été ça.
Donc maintenant, sur l'étage inférieur, il se trouve la BU. Il y a aussi la scolarité de L2 au M2, où normalement, on ramasse sa carte étudiante au début de l'année. Et il y a l'atrium café, où on peut prendre des petits cafés ou des choses à manger, et des endroits pour se reposer, pour s'asseoir avec des amis, bavarder, manger et tout. Non, la file est très longue normalement. Donc si on veut prendre un petit café pendant la pause, qui est juste genre 10 minutes entre les cours, souvent c'est un peu trop long. Et on peut pas apprendre quelque chose. Souvent les machines ils sont cassées aussi. Donc la bibliothèque c'est une bibliothèque relativement petite comparée aux autres qui se trouvent sur le campus. Oui, on peut voir des endroits pour travailler, des endroits avec des PC, des postes informatiques pour faire des petites recherches, ou on peut voir des livres aussi et juste des tables pour travailler. Donc c'est comme une BU classique. Voilà. J'espère que vous pouvez un peu mieux imaginer la tête de l'atrium maintenant. Voilà, merci d'avoir écouté.
Merci Lavinia pour cette petite pause détente qui fait du bien. Je suis tellement détendue que je pourrais dormir au studio ce soir. Surveillez-moi s'il vous plaît.
Oh là là, bon, heureusement que c'est la fin du 9e épisode de la saison. Hein.
Cours d'honneur, épisode 9, saison 5, c'est terminé. Merci de l'avoir suivi.
Merci surtout à notre invité Romuald Gallet, interviewé par Jade.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Merci surtout à toute l'équipe.
Merci à Romain.
Et merci à vous et encore bonne année.
Merci aussi à Elias.
Et merci tout le monde. C'était une super émission pour la reprise. Ça fait très plaisir d'être là, 2026. Des belles choses qui arrivent.
Absolument. Et on remercie d'ailleurs tous tes compatriotes danemarkais.
Les danemarkais, oui. Bah un gros bisou à tous les danemarkais.
Voilà, quand même. Hein.
Ils doivent être ravis. Merci à Jade aussi pour cette belle interview.
Non, merci, c'était super. Vous m'aviez beaucoup manqué.
Ah bah. De même. Ça, merci aussi à Mathilde.
Merci à vous, ravi d'ouvrir le bal pour cette nouvelle année 2026. On vous souhaite le meilleur.
Merci aussi à Alice pour son petit retour.
Bah de rien les filles, merci. Bonne année à toute l'équipe. Bonne année.
Allez. Oh là là, fallait qu'elle les fasse. Mais c'est exactement pour ça qu'on t'attendait. Merci aussi à Clara.
Eh ben, merci à vous. J'espère que je vous ai pas trop assommé avec cette petite chronique, mais je crois qu'il y avait un thème un peu commun entre la petite chronique criminelle et puis le débat aussi sur tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais il faut qu'on en parle, faut qu'on en parle et qu'on en débatte.
Absolument.
C'est important d'en parler, mais bon, merci à Lavinia qui était là pour détendre un peu le tout.
Eh ben, c'est tout le travail d'Antoine, écoutez. Merci à vous. Bonne année 2026, encore une fois. Voilà.
Et oui, rappelons-le. Et merci aussi à Thomas qui est toujours partiellement muet.
Non, non, mais moi, merci aux Danemarkais, aux Danemarkaises. On est c'est ensemble, les gars. Eux. Trump, non pas ça, Anne.
Toujours. Merci également à notre invité, Romuald Gallet.
Et on remercie évidemment Radio Campus Paris pour le soutien inconditionnel et pour le partenariat.
D'ici là, évitez de vous faire kidnapper par des méchants Trumpistes.
Ou de vous faire bouffer par le mec louche de votre classe.
Allez plutôt vous ressourcer à l'atrium. Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Bisous. Ciao.
Retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter. T'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends. Est-ce qu'il y aura un autre confinement? Est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit. Où,
j'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.